Erev Tov, les Koulam, et bienvenue dans notre étude sur le livre de Shemot. Et nous sommes au Perek Yud Bet, verset Lamed Dalet.
Pour une fois, j'étais juste.
Ah, bah c'est bien, non?
J'ai marqué.
T'as vu? Perek Yud Bet, donc chapitre 12, verset Lamed Dalet, verset 34. Comment ça, pas non? Bah oui. Alors, c'est très bien. Alors, allons-y. Top. C'est bon? Yes. Donc, on est en plein dans, ça y est, dans la sortie imminente et effective d'Égypte. Ça y est, les indications ont été données. On part demain matin. On part demain matin, c'est, ça y est. Non, on ne partira pas à Khatsot. À Khatsot, effectivement, Pharaon va nous libérer, mais on ne part pas comme des voleurs pendant la nuit, on attendra le matin, et on partira le matin.
Hein? La tête haute.
La tête haute, exactement.
Et on partira avec l'or et les bijoux.
Alors, justement, dans le verset Lamed Gimel, eh bien, on disait « Vatechezak mitzraim al'am, lema'er leshallecha mina aretz ki ameru kulanu metim. » Donc, on s'est arrêté là-dessus. Et on voulait essayer de comprendre c'est qui ce Ham qui est en train d'être pressé par les Égyptiens de partir.
On l'a déjà dit plusieurs fois.
Pardon ?
On l'a déjà dit plusieurs fois.
Oui, c'est bon, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais on s'est arrêté là-dessus. Et donc, ce Ham en question, ce n'est pas les Béné Israël. Il s'agit ici des Égyptiens qui ont décidé de partir avec nous. Ok ? Ces Égyptiens-là, eh bien, Malahasot, ils n'ont pas été prévenus à l'avance. Bah, qu'on allait partir.
Et c'est ce que tu appelles le Erev Rav.
C'est ce qu'on va appeler plus tard, le Erev Rav. Oui.
Il n'y a pas que qui est pressé de partir, c'est tout le peuple.
Non, mais le peuple, il n'est pas pressé. Le peuple, il sait qu'il va partir depuis longtemps, on a dit.
Oui, mais...
Il connaît l'heure et la date exacte du moment où il va partir.
Les Égyptiens n'ont pas besoin de...
Donc, on n'a pas besoin de les presser, eux. Eux, ils sont déjà prêts. D'ailleurs, il y a fort à penser, j'étais pas là-bas, mais c'est sûr qu'au moment où ils mangent le Korban Pessah, on leur a dit « Na'alechem beraglechem ve'chagurim ba'otechem », c'est-à-dire qu'ils sont déjà habillés, ils sont prêts, les valises sont prêtes, et on attend juste l'aube pour partir. Donc c'est-à-dire que nous, on n'est pas pressés, on est organisés, on sait très bien qu'il y a, et on a nos matzot depuis 4 jours. Parce que Moshe nous a dit de faire des matzot.
Quand Hachem a dit à Moshe, après, ils nous chasseront même. Donc, ils ne s'adressaient pas aux...
Ah, mais évidemment qu'ils vont nous chasser. Ça, c'est sûr que les Égyptiens, ils ne veulent plus nous voir à un moment donné. Ça, c'est ouais, évident. Ouais. Mais l'empressement, ce n'est pas pour nous. Nous, on est prêts. On est prêts depuis 4 jours déjà.
Je parle de...
Ok ? Voilà, exactement. C'est ça qui m'intéresse.
Sur quoi tu te bases pour dire qu'il y a d'autres peuples, d'autres communautés qui...
Bah, d'abord, je triche parce que j'ai vu la suite. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien, parce que jusqu'à présent, j'ai pas utilisé mon joker que je connais la suite. Mais on a bien vu que les Béné Israël, eux, sont déjà au courant de toutes les halakhot et sont déjà prêts depuis longtemps. Et donc, tu imagines bien que c'est pas envisageable que les Béné Israël, à ce moment-là de l'histoire, se baladent avec de la batsek, avec de la pâte. Ils n'ont plus le droit au chametz. Alors tu vas me dire, la pâte, elle n'est pas encore forcément chametz, d'accord, mais dans 18 minutes, elle le sera. Et je les vois mal être en icône d'être tout le temps avec de la pâte. Et donc, ça ne nous laisse plus d'autre choix que de dire que ces gens-là, on nous dit, « Vaïssa ha'am et betseko terem yichmat », c'est qui? Eh bien, ça ne peut pas être les Bnei Israël. Parce que eux, au moment de Pessah, ne se baladent pas avec de la pâte sec prête à devenir chametz. Donc, c'est qui ces gens-là? Eh bien, ce sont les autres. Alors, deux secondes, comment ça se fait que leur batsek, pour l'instant, disons qu'ils viennent de la faire. D'ailleurs, ça correspond très bien avec l'horaire. Là, quelle heure il est?
Il est 7h15.
Mais non, pas nous. Oh là là. Dans le verset, la Meddalet, quelle heure est-il? Dans le verset, la Meddalet, il doit être 4h du matin. Un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on est juste avant le lever du soleil. C'est là que Moshe a envoyé un message WhatsApp à tous les Égyptiens qui voulaient partir, qui ont déjà fait leur groupe ensemble, en disant « Les gars, on s'en va !» C'est l'heure où, comme tous les jours, on fait du pain. C'est à cette heure-là que le boulanger il se lève et qu'il fait son pain. Donc ils sont en train de faire leur pain. Vaïsam et Betseko, Terem Yichmat. Et comment ça se fait qu'il y a un verset qui arrivera plus tard, que je connais parce que je triche, que me dit que lorsqu'ils vont arriver à Sukkot, ils vont pétrir, enfin, ils vont utiliser leur Betsek, Ugot Matzot Kilo Hametz. Les amis, moi je veux bien, mais entre Ramsès et Sukkot, je ne peux pas te dire exactement combien de kilomètres il y a, mais il y a plus de 18 minutes de marche. C'est sûr. Donc comment c'est possible que s'ils viennent de faire leur Batsek maintenant et qu'ils arrivent à Sukkot, c'est toujours pas Hametz.
D'après Rashi, il y a à peu près 150 kilomètres.
Donc ce n'est pas vraiment faisable en 18 minutes. Bon. On est d'accord ?
On n'avait pas dit que c'était le pain.
Quoi ? Mais même si tu ne mets pas de levain.
Non, on n'avait pas parlé que c'était le levain.
Non, deux secondes. Là, ce n'est pas ça que je pose comme question. Je dis, les mecs, ils ont de la pâte. Une pâte, qu'elle soit faite. Alors, s'il y a du levain, ça lève plus et plus vite. Mais même sans levain, de l'eau et de la farine, t'en fais une pâte. Au bout de 18 minutes, ça devient Hametz. D'accord ? Maintenant, entre Ramsès, là où ils partent, et Sukkot, là où ils arrivent, il y a plus de 18 minutes de marche. Donc comment est-ce possible que lorsqu'ils vont arriver à Sukkot, la Torah va nous dire, c'est un peu plus tard, mais va nous dire qu'ils ont fait des Ugot Matzot, Kilo Hametz. Ok ? Eh bien, c'est marqué dans notre verset, « Vaïsam et betseko terem yichmat, misharotam tserurot besimlotam al shichmam. » Où est-ce qu'elle était déposée, cette pâte? Bon, j'imagine dans un cli, hein, mais où est-ce qu'ils l'ont posé, ce cli? Là, on nous donne exactement l'endroit où il est. C'est un détail qui ne nous intéresse pas, si ce n'est pour celui-là. À savoir, c'est là. Ils ont mis leur batzek entre les omoplates. Ok? Eh bien alors, ça veut dire que quand ils vont marcher maintenant de Ramsès à Sukkot, qu'est-ce qui va arriver à la batzek? Pas chauffée. Elle va pas arrêter de bouger. Or, une pâte, tant que tu la fais bouger, tant que tu la pétris, tu peux la pétrir pendant 24 heures, 50 heures, ça ne devient pas Hametz. C'est quand elle commence à reposer qu'on compte 18 minutes. Donc, comme ils n'ont pas arrêté de marcher et qu'on te dit qu'elle était à un endroit où ça marche, eh bien, tout d'un coup, ils sont arrivés, c'était pas encore Hametz. Ce qui tombe bien, parce que maintenant, ils ne peuvent plus être avec du Hametz, puisqu'ils ont décidé de s'attacher au peuple juif. Et le peuple juif, à ce moment-là, n'a plus le droit d'avoir de Hametz avec lui. Ok ? Alors, on y reviendra évidemment quand on arrivera à ce verset. « Ou béné Israël, assou qui devar Moshe. » Ma stomaïette, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mazé, ou béné Israël, assou qui devar Moshe.
Ils ont
demandé... Non ! Ce que Moshe leur a dit de faire avant. C'est pas possible que les Bnei Israël aient été demandés les Veishalum et Mitzrayim, Klekesef ou Pesav ou Smalot. C'est pas possible. Moi j'adore les. Mais on veut pas lire les versets. Non, Azov là, oui, t'as compris que ça allait être âme. Mais pourquoi je dis que c'est pas possible que les Bnei Israël? Parce que les Bnei Israël, ils ont reçu un ordre de Moshe, à savoir. Ali etse ish. Mibeto, Ad, Boker. Les Bnei Israël, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux jusqu'au matin. Et au matin, ils s'en vont. Donc c'est Baruch, c'est pas eux qui ont été demandés, Klekesef ou Klezav ou Smalot.
Pourquoi alors ils mettent une ambiguïté?
Mais il n'y a pas d'ambiguïté. Je te rappelle que l'indication de lecture qui est marquée en dessous du mot Moshe, c'est un point. C'est une autre phrase. Pourquoi tu dis ça? Tout de suite, tu m'emmènes Rashi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il est où est-ce que je suis? Il est qui devant Moshe? Chez Amar, la même Israël, Vaïchalou, Ishmeet Rehu. Ben évidemment.
Pourquoi?
Non, mais quand est-ce que c'est Vaïchalou, Ishmeet Rehu? Il l'a demandé bien avant. Donc, le verset. Le verset. Quand il a dit, vous allez demander Ishmeet Rehu, machin, nanana, c'est. Moshe leur a donné l'ordre bien avant. Maintenant, quand est-ce que concrètement ils vont aller chercher chez les gens? Eh bien, on va te dire comment est-ce qu'on arrange les deux problèmes? Eh bien, les gens, les Égyptiens qui veulent se lier à nous, on va les envoyer faire les courses.
Qui dit ça?
Quoi? On est bien obligé de mettre tout le monde d'accord. Rashi, il a bien lu le verset qui dit qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison jusqu'au matin.
Il dit rien.
Non, Rashi te dit, ça c'est ce que tu te rappelles quand Moshe leur avait dit, vous irez demander à vos voisins, seulement deux secondes, vous irez demander à vos voisins, c'était qui on avait dit? Déjà à l'époque. Il y avait marqué Vaïten Hashem et Tren Aham. Vous ne faites que donner de l'eau à mon moulin. Ish me'et re'eu, n'achon? Mazé re'eu, zimioto am. Donc ça peut être qui? Si c'est ish me'et. En pam, ve'avta le re'acha kamocha, c'est celui qui est, halakhiquement parlant, de ton peuple. Donc c'est qui? Va'ishalou ish me'et re'eu. Si on va leur demander aux Égyptiens, ça peut être que des Égyptiens qui leur demandent.
Non.
Ben, comment ça va?
C'est Moshe qui a dit aux Hébreux de demander aux Égyptiens.
Exactement.
Et à partir du moment où ils sont Hébreux, ils ne sont plus réels.
Ah.
Ils sont séparés de leur...
Tant qu'ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas encore sortis. Tant qu'ils ne sont pas encore sortis d'Égypte avec nous, ils sont encore Égyptiens.
Ils sont quand même déconnectés.
Ils sont un peu déconnectés, certes, mais ils sont quand même beaucoup plus Égyptiens que nous. On a vu que lorsque Moshe, après la neuvième plaie, il a dit que Moshe, il était très, très, très... Enfin, comment c'est le verset exactement? Je ne me rappelle plus le texte, le terme également, exact. Mais il dit, les Gamaïch Moshe Gadol... Si, voilà, je me rappelle. Gamaïch Moshe Gadol Meod Beine Mitzrayim ou Beine Aham. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, déjà à ce moment-là, se disent, bon, hey, nous, on veut s'attacher à Moshe. Ils ne sont effectivement pas vraiment liés au Am Israël. Ils ne vont pas sortir d'Égypte pour se lier à l'identité d'Israël, mais ils se lient à Moshe. Ce qui va nous amener tous les problèmes qu'on aura après dans le désert avec eux. Ok? Donc... De quoi? De quoi?
Du Erev Rav, parce que la Torah, elle
en parle. On nous apprend d'où quoi? Soyez plus précis dans vos questions, s'il vous plaît.
Voilà, le Erev Rav, l'existence
oui.
du Erev Rav,
oui.
elle est marquée où?
Deux secondes, elle va s'appeler Erev Rav après. Pour l'instant, cette existence, on la connaît. Elle s'appelle Aham. Le fait qu'on va les appeler Erev Rav plus tard, ça viendra plus tard. C'est-à-dire, mais le Kliyakar, il n'a pas besoin d'attendre plus tard. Il t'a déjà expliqué que c'était ces gens-là, ces Égyptiens qui vont venir avec nous. Les noms qu'ils vont porter vont varier. Ces gens-là sont appelés à trois, enfin, à plusieurs reprises, mais de trois appellations différentes. Des fois, ils sont appelés Aham. C'est quand ils sont neutres. Des fois, ils sont appelés Erev Rav, c'est quand c'est pour montrer quelque chose de péjoratif. Et des fois, ils sont appelés Tzivot Hashem, c'est quand c'est pour montrer quelque chose de très positif.
D'accord. Quelque chose de pardon ?
Positif. Les armées de Dieu. Ok ?
Moi, j'ai une interrogation.
Oui, je t'en oublie.
Est-ce qu'on sait à quelle heure ils sont partis ?
Oui.
À quelle heure ?
Au lever du soleil.
Au lever du soleil. C'était que au lever du soleil ?
Le matin, à Boker. C'est quand Boker ?
Mais le matin, ça peut être jusqu'à 8h-9h.
Ah, toi tu dis, ils ont fait la grasse mat.
Non, non.
Si, tu dis 8h-9h, c'est la grasse mat. Si, c'est la grasse mat.
Non.
Le soleil s'est levé à quelle heure à cette, à cette période-là de l'année ? On est à Pessah.
C'est pour dire que le fait de demander des... Comment,
des non, mais ça ne marche pas ton histoire. Ça ne marche pas ton histoire.
Ça a pu se passer dans la matinée.
Non, ça n'a pas pu se passer dans la matinée pour la simple raison qu'ils ne sont pas partis dans la matinée. Ils sont partis, Zrizim, Makdimim. Quand on te dit de partir le matin et que tu attends ça depuis 210 ans, tu ne fais pas la grasse mat ce matin-là. Tu pars. Et,
non, il n'est pas question de grasse mat.
Bon, si. Encore une fois, toi et moi, on vit au 21e siècle.
Oui.
Donc toi et moi, on vit au gré de notre montre.
Oui.
Ok ? C'est ça qui détermine notre vie. Et donc, dès qu'on met le shaon mehorer, dès qu'on met notre réveil, c'est le début de la journée. Mais toi et moi, on est très très loin de la vie agricole, de la vie avec la nature.
Ouais.
À l'époque, les êtres humains, ils commencent leur journée au lever du soleil. C'est pas, il n'y a pas de débat. À part les rois...
Le coq.
Le coq, il nous réveille. Ouais. À part les rois, qui eux, ont l'habitude de traîner. On nous dit jusqu'à 8-9 heures, ouais. Comme tu dis. Pourquoi je dis 8-9 heures ? Parce qu'on est après ça. On est au printemps. À Pessah, en Israël, en Égypte, c'est plus ou moins les mêmes horaires. À Pessah, le soleil se lève, il va déjà commencer à se lever, je ne sais pas l'heure exacte, mais il va se lever vers 5 heures. Un truc comme ça. Ok, donc 3 heures plus tard, c'est déjà 8 heures du matin. Ça, c'est les rois. Les rois, eux, ils traînent. Mais les gens normaux, ils se lèvent et c'est le début de la journée, point. À 8-9 heures, c'est déjà presque l'après-midi pour eux. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors, j'essaie de me mettre dans le contexte de ce qui s'est passé
oui.
cette nuit-là.
Oui.
Je ne vois pas des gens dormir. C'est-à-dire.
De chez nous, tu parles?
Oui. Mais même du côté des Égyptiens.
Ah, bah, du côté des Égyptiens, j'imagine qu'il y en avait qui étaient très stressés, évidemment.
Avec ce qui s'est passé, il y avait des deuils partout.
Oui, mais attention, les deuils sont arrivés qu'à Hatzot.
Non, mais qu'importe.
Ben non, bah, au début, ils ne savent pas encore qu'il va y avoir des deuils.
Oui, mais moi, je parle à partir du moment.
Ah, oui. Ah, oui, j'imagine que c'était la cohue.
Voilà, les gens ne dormaient pas.
Oui.
Et donc, on arrive le matin de bonne heure, les enfants d'Israël vont partir.
D'accord.
C'est à ce moment-là qu'ils vont demander des choses.
Je vois pas. Bon, ça, t'as envie de marquer ça comme ça, t'as envie de.
Non,
pourquoi
j'ai
pas
envie, non.
Bah, c'est, ça rentre pas du tout ni dans les mots, ni dans tout ce qu'on sait du texte et de tout. Là, pour le coup, tout le monde est d'accord. Il y a personne qui a jamais émis l'hypothèse qu'on est parti à 9h du matin. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'on est parti le matin. Et le matin, d'après la Torah, c'est.
Soit.
On est parti.
Soit.
Nous.
Justement, après une nuit blanche.
Ben voilà, on part. Ben voilà.
Les gens
donc il fallait bien que les smalotes et tout ça, ils soient déjà là.
Dire aux enfants d'Israël, partez.
Ben voilà. Donc on ne va pas attendre, on ne va pas avoir le temps, parce que tu t'imagines, ce n'est pas toi et moi. On parle de 600 000 personnes, minimum. Donc ça prend du temps quand même d'aller demander chacun chez son voisin. Non, c'est bon, on ne fait pas ça en 2-2. Je ne vois pas pourquoi ça vous dérange tellement.
Non, parce que, comme c'est marqué, les enfants d'Israël ont fait comme Moïse leur a dit. De demander.
Non, ça c'est toi qui dis de demander. Après, il y a un Vaïchaloum, pas forcément relié aux Béné Israël qui ont fait qu'ils devaient manger. Arrête, Moshe leur a dit de faire pas mal d'autres choses cette nuit-là. Donc, Vaïchaloum, Béné Israël qui devaient manger.
Vaïchaloum, Béné Israël.
Qui ? Ces gens qui commencent déjà à se détacher de l'Égypte, mais pas encore complètement. La preuve, c'est que Rashi nous dit. Que c'est Ish Met Re'eu. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça vous dérange tellement. Ish Ve Re'eu, c'est la notion de Réa, c'est que ça fait partie de la même identité nationale, du même peuple. On est tous d'accord que les Égyptiens et les Hébreux, ce n'est pas les mêmes. En malas, autres.
La Torah ne dit pas qu'ils ont fait d'abord Shacharit avant de.
On fait Shacharit avec les Kavanot et tout. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis ils ont été au Minyan Chabad à 10h30 aussi. Bravo. Al-Zidak. Besayer. Donc, Vashem Natan et Renaam, Beine Mitzraim, Vaishalou, Veinatselou et Mitzraim. Ce qui est beaucoup plus clair, si ce Ham en question, c'est des gens qui sont de chez eux, qu'ils connaissent. Plutôt que de donner chen à Ham s'il s'agit des Bnei Israël, je ne vois pas pourquoi les Égyptiens seraient tout d'un coup sympathiques avec eux.
Mais pourquoi est-ce que sympathique avec eux?
Parce que c'est ton frère. Tu le connais depuis toujours et tu n'as jamais eu de problème avec lui.
Hein? C'est des traîtres.
C'est des traîtres. Peut-être qu'ils auraient bien aimé être aussi avec eux.
Mais je ne comprends pas.
Quel est le problème?
Je ne comprends pas.
Quel problème?
Tu dis il faut que ce soit des amis.
Oui. Non, comment ça des amis?
Là, on assiste à un miracle. Hachem intervient.
Ah oui, tout à fait.
Et il leur fait trouver grâce.
Nakhon, parce que, comme il dit, c'est des traîtres. Donc, ils ont du mal avec ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ça marche. Mais avec les Bnei Israël, il n'y a même pas de débat.
Mais attends.
Oui.
Tu dis c'est des traîtres.
Ben, c'est pas moi qui l'ai dit.
Pourquoi?
Ben, ils s'enfuient avec les Hébreux. Ils partent de. Si c'est des Égyptiens, ils partent de l'Égypte avec les Hébreux.
Oui.
C'est des traîtres.
Ça, c'est au dernier moment, oui.
Ben d'accord, c'est bon, c'est ça qu'on parle. C'est maintenant que ça se passe.
Mais les autres, ils n'avaient pas prévu ça.
Ben, j'imagine qu'ils n'avaient pas prévu ça. Donc, nous, autant dire qu'il ne fait pas bon être égyptien à ce moment-là.
Donc Hachem, il est d'accord pour que le Ham sorte.
Ah ben évidemment. Je vous rappelle que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est de faire sortir les Égyptiens aussi.
Oui.
Ah ben oui. Si on ne prend pas d'Égyptiens avec nous, la sortie d'Égypte est ratée. Ben parce que ça s'appelle Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, de l'Égypte.
Et non pas la sortie d'Israël,
ou non la sortie du pays d'Égypte.
La sortie d'Égypte.
Voilà, si, Yetziat Shel Mitzrayim. Lo yetziat Israël. Donc le but, c'est que le monde entier sorte d'exil. Le monde, c'est l'Égypte à ce moment-là. Ok ? Donc, Tov Meod, que Moshe Rabbeinu, il a décidé de sortir des représentants du monde avec nous. Baruch Hashem. Vaïssou bene Israël mira meses sukota, que shesh meot elef raglim hagevarim levad mitaf. Donc là, on commence à nous donner des chiffres. 600 000 personnes, il ne s'agit que des hommes âgés de plus de 20 ans. Avec un petit calcul très rapide, on peut déjà rajouter au moins autant de femmes.
Et des enfants.
Et des enfants, bah, tu fais comme tu veux. Est-ce que ce sont des familles avec un enfant? Ou est-ce que ce sont des familles avec deux enfants?
Et les vieillards.
Alors, on n'a même pas parlé encore de vieillards. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un, deux enfants? Ou alors, est-ce que tu vas dans le Midrash qui m'ont dit qu'à chaque fois, ils avaient six enfants d'un coup? Je m'en fiche. Disons qu'ils avaient deux enfants. Allez, un garçon, une fille avec un chien. Des bons Tel Avivim.
Et on arrive à 6 millions.
Non, pas du tout. On arrive, bah non. Si tu fais 600 000 plus 600 000, ça fait 1 200 000.
Plus 12 enfants par femme.
Combien ?
Plus 12 enfants.
12 ? Ah, deux enfants. Deux enfants. On a dit deux. Allez, on est sur deux. Donc ça fait encore 1 million 2. Donc on est déjà à 2 millions 4. Alors, le Zubien, je ne peux pas te dire combien ils étaient, je n'ai pas de chiffres. Mais d'abord, on a oublié les personnes âgées. Hein, ils ont pris des EHPAD avec eux. Donc, bon, allez, 500 000. Non, je ne sais pas.
Facilement.
Ah là, facile. Bon, allez, 3 millions.
Parce que quel est l'âge limite pour la guerre?
50 ans.
50 ans.
Oui, non, mais évidemment. Il y a là. Donc, on est à près de 3 millions de personnes, peut-être un peu plus. Maintenant. Je vais dire quelque chose, je suis enregistré, j'ai peur de dire ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas le chiffre officiel. Ça ne marche pas avec les populations de l'époque. C'est 3 millions de personnes qui sont que le peuple juif. Et je ne rentre même pas dans le verset que tu n'aimes pas. Okay, je ne rentre même pas dans le fait que c'était 1 sur 5 et tout.
Plus des animaux.
Non, sans des animaux. Ce n'est pas simplement la population humaine. Il n'y a pas autant de monde en Égypte à cette époque-là. Il n'y a pas. Non, mais non, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions d'habitation qu'on a aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, vos 3 millions, oui, bah pourquoi pas. Non, c'est pas du tout plausible en termes d'époque. Absolument pas. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de remettre en cause la Torah, Chas v'Shalom, puisque le Maharal de Prague, d'Ambert Agola, nous a déjà expliqué que ce que les Chachamim font tout le temps, la Torah, elle fait des fois. Voilà. Les Chachamim, quand ils parlent d'histoire avec des chiffres, c'est pratiquement tout le temps Guzma. C'est-à-dire tout le temps, presque, ils exagèrent les chiffres. La Torah, de manière générale, elle donne les vrais trucs, mais des fois, elle exagère aussi. Maintenant, ok, une fois qu'il a dit ça, il s'arrête pas là. Il dit, mais ok, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi la Torah elle a eu besoin de me dire ces chiffres-là s'ils sont exagérés? Elle dit parce que ce n'est pas ce qui était, mais ce qui était Raoui Liot. C'est ça qui devrait être.
Aurait dû, devrait,
c'est-à-dire c'est ça l'idéal du chiffre que ça doit représenter. Est-ce que dans les faits, ils sont arrivés à ça? L'homme
est chané. Le nombre qui nous est donné, c'est un nombre qu'on va retrouver au recensement.
Bien sûr. C'est un nombre qu'on va retrouver au recensement. C'est un nombre qu'on va retrouver tout le temps.
Ils ont bel et bien été comptés.
Baruch, ils ont été comptés. Là aussi, tu peux te poser des questions. Est-ce que ce décompte, il est plausible?
Pourquoi pas?
Parce que ça fait beaucoup trop de monde pour l'époque. Au niveau, on va dire, simplement archéologique et historique, t'as pas autant de gens qui se baladent au même endroit. Mais moi, j'accepte. Ça me dérange pas qu'ils étaient vraiment autant. Je dis juste qu'il faut pas s'exciter si t'entends des gens qui te disent « Ah, c'est des chiffres qui sont pas possibles et pas plausibles. » C'est-à-dire, historiquement parlant, c'est dur à entendre ce genre de chiffres. Mais c'est l'homéchané. Parce que la Torah, elle veut nous expliquer qu'est-ce que ça doit être. Et tous les chiffres qui sont donnés ici dans le texte, si tu veux comprendre quelle est leur signification profonde, eh bien, va voir, par exemple, le commentaire qui s'appelle Aktav Mea Kabbalah. Lui, il va, tous les chiffres, il les prend et il explique qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire, l'homéchané. On ne va pas faire ça maintenant. Mais sachez juste que si jamais il y a des gens qui vous disent « Oh, la Torah, c'est faux, regardez les preuves, les chiffres, ils sont exagérés », dis-leur, c'est-à-dire le Maharal de Prague, il l'a déjà dit avant toi. Pourquoi tu t'excites? Maintenant, nous, on s'en fiche. Nous, on accepte ces chiffres-là. Ils ne nous dérangent pas. J'ai dit juste que même s'ils ne sont pas vrais au niveau historique, ils sont vrais au niveau de ce qu'ils doivent nous apprendre et ce qu'ils doivent nous représenter. Et donc, ce n'est pas anodin qu'à chaque fois qu'on va compter les Bnei Israël ou qu'on va dévoiler le nombre des Bnei Israël lorsqu'ils portent le dévoilement de Dieu, c'est 600 000. Semble-t-il que c'est un chiffre qui est central dans le dévoilement de la Kadosh Baruch
Hu. Ne donne pas le nombre d'habitants qui habitaient en Égypte.
Non, on s'en fiche.
Ils étaient 30 millions.
Si tu veux. C'est pas possible, mais si tu veux.
Et sur ces 30 millions, il y avait 3 millions de Juifs qui habitaient la province de Goshen.
Les chiffres ne nous intéressent pas. Parce qu'ils sont faux dans tous les sens. Ah, mais c'est leur chachou. Ce qui est chachou, c'est ce qu'ils représentent. D'accord ? Vegam erev rav, ah bah tiens, ça y est, ils sont là. Vegam erev rav ala itam, vetson o bakar mikne kaved meod. Donc cette fois, ils prennent leur appellation erev rav. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On retrouve le mot de arov.
Bien sûr. C'est quoi erev ? C'est qu'ils se sont mélangés à nous. Ils se sont mélangés un peu.
Rav,
beaucoup. C'est pour ça qu'il y a une différence entre deux versets. Deux versets, le premier qui nous dit « Va'aftem et ta guerre » que le converti, il faut l'aimer et on a énormément de descriptions comment pour nous, les convertis, enfin le converti, il est très très bien et au contraire, c'est génial. Par contre, d'un autre côté, on nous dit « Kashim gerim le Israël kasapachat » que les convertis sont durs pour le peuple juif comme des maladies. Comment est-ce qu'on arrange les deux ? Très simplement. Lorsqu'il vient seul se convertir, génial. Va Aftemoto, il est super, il a une dimension que tu n'atteindras pas et tout ça. Parce qu'il vient et il s'intègre au peuple juif. Mais lorsqu'ils viennent en tant que groupe, ils ne vont jamais vraiment s'intégrer parce qu'ils vont rester un groupe. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Toute ressemblance avec des cas actuels, les Avdil, Elef Alfe Avdalot, nous on parle de la Kedusha, et là-bas c'était la Toumar, et Nagi. Imaginez-vous un juif qui habite, je ne sais pas, à Metz, par exemple, c'est-à-dire, qui décide de faire son alia, Metz c'est une petite ville de 200 000 habitants dans le nord-est de la France. Il décide de faire son alia en 2003, il vient de passer son bac et tout, il vient en Israël. À ce moment-là, non seulement c'est l'intifada en Israël, non seulement c'est pas la mode de faire son alia, et surtout pas de France. Donc quand il arrive en Israël, il n'y a pas de programme Massa, il n'y a pas tout ça. Tu es obligé de t'intégrer parce que tu n'as pas vraiment le choix. Il y a deux, trois organisations francophones. Il y a le CNEF, il y a AMI, que j'avais jamais, ni l'un ni l'autre, je les ai entendus, j'ai entendu parler d'eux quand je suis arrivé en Israël. Je suis arrivé dans. Hein ? Je sais pas. Mais j'ai pas entendu parler d'eux non plus. En fait, j'ai entendu parler de personne. Je suis arrivé à la Yeshiva. Et certes, au début, j'étais inscrit dans un programme de francophones. Mais très vite, j'ai été dans le programme des Israéliens. Et puis, bon, bah, j'ai appris à parler hébreu. Et puis voilà. Parce qu'il n'y avait pas le choix, de toute façon. Qu'est-ce que ça voulait dire de rester entre Français ? Et d'abord, il n'y en avait pas. Et puis, j'étais pas venu en Israël pour rester entre Français. Et puis, il y a un autre cas. C'est des gens qui décident de faire leur alia en 2020, en 2018, 2019, 2021. Mais qui viennent en groupe. Je ne parle pas seulement du projet qui s'appelle l'alia de groupe. Je parle de tous ces gens qui viennent maintenant et qui savent qu'il y a plein de gens, il y a des communautés francophones partout. Et donc, bah, quand je viens m'installer en Israël, je veux me mettre à côté des francophones. Parce que c'est plus facile pour l'intégration, parce que...
Travailler.
Ah, ça, c'est encore un autre schlab. Et le problème, il est là. Quand tu ne fais que être avec ton groupe et tu es complètement détaché du reste, si tu es avec ton groupe pour t'aider à t'intégrer, c'est metsuyan.
C'est très difficile de détacher de la culture française pour un juif français.
Nahon. Et c'est d'autant plus difficile quand il vient tard. C'est bien sûr.
Il y arrivera, mais au bout
il y arrivera à la condition qu'il décide d'y arriver. Et pour ça, il faut qu'il décide que de temps en temps, il va à un cours en hébreu, que de temps en temps, il a des autres copains qui sont aussi des gens qui ne parlent pas forcément français, que de temps en temps...
Il prie chacharit dans un cours où il n'y a que des Israéliens.
Non, pas forcément, parce que Shacharit, de toute façon, il l'a pris en hébreu, donc ça ne me dérange pas. Mais de temps en temps, il va faire ses courses, pas que à l'épicerie française.
Mais ça existe, des gens qui parlent hébreu ?
Ben, tu serais étonné. Tu serais étonné. Ça a l'air. Donc, évidemment, elle, la Abdi, elle est fait Abdi à l'autre. Mais comprenons que quand un groupe, il arrive en tant que groupe, ben, c'est difficile pour lui de s'intégrer. OK ? Donc, c'est la première fois qu'on voit le mot Erev Rav qui apparaît. וגם ערב רב על איתם, וצאן הבקר מתנה כבד מאוד. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, מוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. Donc là, ce verset qu'on connaît tous très bien, maintenant on a très bien compris de qui il parlait. Ils ont fait des gâteaux de matzot parce que ce n'était pas chametz, et ils n'ont pas eu le temps de préparer leur bivouac.
Tu parles
de Rav Rav ? Ben là, c'est bon, là, je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur le fait. Bah, Orge et Bourjou, à partir du moment où ils ont compris que c'était des traîtres, bah, t'imagines bien que les autres Égyptiens, ils ne les ont pas portés dans leur cœur. Et c'est les seuls qui n'ont pas eu le temps de préparer leurs affaires. Ok ? La question qu'on va se poser maintenant, et je me permets de la poser, c'est que maintenant qu'on a compris ça, on a compris la grande mascarade de on n'a pas eu le temps, alors comment ça se fait que dans la Haggadah de Pessah, c'est ça qu'on me dit ? Que dans la Haggadah, c'est ça qu'on dit. Matza zo al shumma al sum shelo yispik betzekam shel avotenu. C'est ce qu'on dit tous. Et on dit avotenu. Lama. Bah parce qu'à partir du moment où ils ont décidé de se lier à notre destinée, c'est avotenu. Quelqu'un qui s'est converti, d'abord, je n'ai pas le droit de lui rappeler qu'il fait partie de quelqu'un d'autre. Non, il fait partie intégrante maintenant de nous. Et donc, il devient mais à votaille. Ruta Moavia, c'est imacheli.
Mais à votaille, ça veut dire.
Il fait partie de mes pères, de mes ancêtres. Ok, Ruta la Moavit, qui s'est converti, c'est ma maman. Autant que Sarah, Rivka, Rachel, Véler. Ok ? Donc, c'est tout à fait vrai de dire cela. Que Bémet, on mange la matzah, pour plein de raisons qu'on connaît, mais aussi parce que la batsek de Noah Voten ou Arevrav, qui ont décidé de reconnaître le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, alors, eux, ils n'ont pas eu le temps. Et donc, nous, on fait ça. Je vous rappelle qu'à Pessah, il y a un moment donné, on passe nos nerfs sur les goyim. Ron, il y a tout un parti, toute une paragraphe dans la Haggadah qui dit « Shefor chamatecha à la goyim ». Alors, attention, les goyim, Asher, lo yedaoucha, ou beshimcha lo karaou. C'est-à-dire, oui, Shefor explose les goïms qui ne te reconnaissent pas. De là, tu apprends que les goïms qui te reconnaissent, ah bah, ça y a fait meurtre, voilà comment. Et on va même leur faire une fête spéciale, 6 mois plus tard, qui s'appelle Sukkot. Ok ? Yofi.
Mais là, oui. Là, pour l'instant, le rêve est sincère.
Ben pourquoi pas ?
Il a reconnu Hachem.
Oui.
Il se mélange au peuple, donc pour l'instant il y a.
Mais il a du mal à se mélanger au peuple. Il est attaché à Moshe plus qu'au peuple.
Il a pas forcément les mêmes coutumes.
C'est pas une question de coutume. Il n'a pas été, si tu veux, convaincu par l'identité d'Israël. Il a été convaincu par Moshe qui sert Dieu.
Et Dieu, il a été convaincu par.
Dieu, il n'a pas besoin d'être convaincu.
Non.
Est-ce qu'ils ont été convaincus par Dieu ? Bien sûr. Mais pas par l'intermédiaire, pas par le prisme du peuple juif, par celui de Moshe.
C'est normal, ils n'étaient pas tellement.
Je suis d'accord. Je leur jette pas la pierre. Hein ? Donc, ok, donc on va voir que ça va créer pas mal de problèmes plus tard. Ou Moshav bene Israël, asher yashvu be Mitzrayim. Donc, combien de temps les bene Israël sont restés en Égypte ? 30 shana ve 400 shana. Hein? 430. Combien tu dis ? Non, t'as dit 215. Pourquoi t'as dit 215 ?
C'est un scoop.
Pourquoi ?
C'est écrit.
Pourquoi 430 ?
C'est écrit.
Oui, là, c'est sûr que c'est écrit.
Non, il dit c'est un scoop.
Non, mais. Deux secondes. Tu es le premier à devoir me dire c'est un scoop. Parce que, surtout toi qui as une bonne connaissance des versets, tu sais que ce n'est pas ce qui avait été promis à Avraham. Combien avait été promis Abraham?
230 ans.
Pas du tout.
400.
Abraham, il a dit, Yado Ateda qui guérit les Zahra Beret Solahem, Babadoum Veinota, Arba Meotchana. Alors tu vas me dire, bon, ça va, 30 ans de plus, 30 ans de moins. Mais non, toi je sais que ça ne te va pas, cet argument, 30 ans de plus, 30 ans de moins. Hein?
Je
sais. Et en plus,
on sait qu'ils étaient à 210 ans.
Ah, toi tu dis, ils étaient à 210 ans. Alors ça, le coup qu'ils étaient à 210 ans, d'abord, il est marqué nulle part dans la Torah. Et chez les Chachamim, c'est une marloquette. Marloquette, Ramban, Ibn Ezra, Vesforno, est-ce que c'était 210 ou 215?
Oui, mais de toute façon, c'est pas 400.
Attends deux secondes, génial. Tout de suite, tu t'excites. 210 ou 215? Ok. Agave, le Ramban, il va plus sur 215. Il fait coller ça, maintenant, à partir de quand? Parce qu'au moment, on arrive en Égypte. Donc, les 400, parce que même les gens qui te disent 210, 215, ils ont vu le verset d'Abraham. Donc, ils sont obligés de s'arranger. Donc, comment ils te font arriver à 400?
Naissance de
Yitzhak. Pourquoi, quel rapport? Parce qu'on t'a dit... Qui va être Eved? Qui va, à partir de quand ça va commencer? Zaracha. Qui guérit Zaracha?
Zaracha,
ta descendance. Donc c'est qui ta descendance? C'est Yitzhak. Ça commence à partir de Yitzhak. Donc la naissance de Yitzhak. Est-ce qu'il était guerre? Bah oui. Il était guerre d'abord en Eretz Kenan, ensuite en Eretz Pelishtim, et ensuite les descendants ont continué à être guerre en Égypte. Beretz Kolaim. Mais si? Yitzhak, il n'a jamais vécu dans une Eretz qui est l'eau. Au moment de Yitzhak, Eretz Kenan, c'est chez la Kenanim. C'est pour ça qu'on ne t'a pas parlé de l'esclavage ici. C'est pour ça qu'ils vont t'expliquer, pour s'en sortir, te disant que la Xéra, enfin, la névoie qui a été donnée à Abraham, elle se réalise crescendo. Ok? Yado Ateda qui guérit Yézaracha Be'eretz Lolaem, depuis Yitzhak. Va Avadoum. Ve'inu otam, 400 shana. Le 400 shana, c'est sur le kolel. Dans ce truc, il y aura Eretz Lolaem, et puis à un moment donné, Avadou, va à un moment donné, Inu.
C'est gênant.
Bien sûr que c'est gênant.
Parce qu'il est dit.
Ça, c'est un autre problème.
Et
Vene
Israël.
Oui. Vene Israël. Ah, bah oui, là, alors là, tu touches, hein, tu mets le doigt sur quelque chose d'important. Tu dis, ah, tout ça, je veux bien, hein, mais ici, il y a marqué au Moshav, Bene Israël. Et Bene Israël, c'est que depuis qu'ils sont en Égypte. Eh oui! Et donc là, effectivement, comment est-ce qu'on arrive à 430? Parce que dans tous les sens, depuis que Yaakov est arrivé en Égypte, tu ne peux pas arriver à 430. Et même si tu comptes avec le début de l'arrivée de Yosef, ça ne fera toujours pas 430. Et là-bas, ça fait Bémet 215. Ça fait Bémet 215. Alors comment est-ce que tu arrives à 430? Eh ben voilà. Donc ça veut dire que c'est 215 et 215. Lama. Vous vous rappelez de ce que Dieu nous a demandé de faire? Il y a, on est au verset combien? Attends, on est au verset 40. Vous vous rappelez ce qu'il nous a demandé de faire? Il y a 39 versets. Je vous rappelle. Achodesh azé lachem rosh chodashim rishon ou lachem lechodesh hashana. Ça se passe il y a 3 jours. On est d'accord? 4 jours. Donc en fait, il y a 2 fois 215. Il y a 215 du point de vue de la datation égyptienne, et il y a maintenant 215 du point de vue de la datation hébraïque. Pourquoi est-ce qu'on a superposé les deux? Alors qu'on aurait dû dire en fait 215, mais en fait non, parce que pour le moment, ce sont deux décomptes qui sont complètement séparés. L'un commence avec Tishrei, et l'autre commence avec Nissan. Donc on a en fait 2 fois 215 ans qui se superposent pour comprendre que tant l'année qui commence avec Nissan que l'année qui commence avec Tishrei ont une importance dans le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc c'est pas qu'on est resté physiquement 430 ans en Égypte. On est resté 215 ans en Égypte. Aval, ça vaut 430 ans.
Et c'était l'extérieur.
C'est-à-dire là, ça compte double, c'est but à l'extérieur, tu as raison. T'es resté sur Maradona, toi. Non, non.
C'est quoi, c'est un rattrapage, c'est quoi, je ne sais
pas. Non, c'est pas un rattrapage. C'est une capacité d'élévation également de leur vision du monde. Ok ?
C'est pas.
Oui.
C'est pas 215 pour les hommes et 215 pour les femmes.
Non, pourquoi est-ce qu'on a le même temps ?
Oui. Mais...
Les hommes et les femmes, on a.
Donc ça fait 400 ans.
Mais d'accord, mais pourquoi vous voulez séparer les hommes et les femmes ? Les hommes et les femmes, ils sont ensemble. C'est pas les mêmes travaux, mais on est ensemble, on vit les choses ensemble. Le soir, ils se retrouvaient ensemble. Ils mangeaient un petit couscous ensemble. Vaïe Mikel Sloshim Shana Varbamot Shana Vaïe Be Etsem Ayom Aze Yatsu Kol Tzivot Hashem Me Eretz Mitzray. Ça y est. Et là, sur ce verset-là, nous dit le Kli Yakar Tzivot Hashem Ze Aerevra. Mais cette fois, on les appelle Tzivot Hashem. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent à la sortie d'Égypte de ne pas être un échec. Parce qu'ils sont les représentants de l'Égypte qui vont reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch.
Mais là, on parle que d'eux, finalement.
Ouais. Bah, on a parlé de nous dans le chapitre 11.
D'accord, mais là, quand même, c'est la sortie.
Bah, oui, ils sont importants dans la sortie. D'accord. D'ailleurs, tu vas voir, maintenant, on va reparler d'eux.
Mais eux, oui. Ils font partie d'Israël ?
Maintenant, oui.
Oui.
Ah, maintenant.
Hachem, dans son projet, quand il a eu le projet d'Israël, il y avait aussi d'autres gens que des descendants
d'Abraham et d'Israël. Si je ne me trompe pas, il y a des goyim aussi sur cette terre.
Non, je suis d'accord, mais Israël.
J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question, excuse-moi.
Le peuple d'Israël.
C'est en hébreu, parce que...
Oui.
J'avais français...
Am Israël.
Oh, en plus, je sais que tu peux.
C'est la descendance de...
Non, non,
bah,
je...
Yaakov.
Oui.
Hein. Mais le Révra...
C'est pas la descendance de Yaakov.
Rien.
Non.
Voilà. Donc, Hachem, dans son projet de...
Est-ce qu'il avait prévu que le Révra devienne Chélek Miam Israël? Quand tu me demandes est-ce que Dieu il avait prévu... C'est une question qui est problématique. C'est-à-dire, maintenant, est-ce que dans le projet divin, il faut que les non-juifs deviennent juifs ? La réponse est non.
Non.
Non. L'idéal aurait été que l'Égypte sorte en tant qu'Égypte et soit guidée par Israël, qui le guide en tant qu'Israël. Mais ils n'étaient absolument pas prêts à cela. Donc, il y a une petite partie qui est sortie et qui est devenue Israël. Le judaïsme n'est pas prosélyte. Pourquoi ? Parce que je reconnais l'importance de chaque identité humaine. Donc je ne suis pas en train de dire « votre identité n'a pas lieu d'être, devenez moi ». Par contre, s'il y a des individus dans telle ou telle identité qui se reconnaissent en moi, alors ils peuvent s'intégrer. Ok ? Quoi, Hachem ? Encore une fois, Hachem, il a prévu que le monde entier le reconnaisse,
oui.
Mais pas en tant que juif.
Alors pourquoi il les a laissés sortir à ce moment-là ?
Parce qu'il voulait sortir.
D'accord.
Il voulait sortir. Donc tu as compris que. Donc tu as compris que ce n'était pas un échec total, mais ce n'était pas non plus une réussite totale. Résultat des courses, bien l'histoire ne s'est pas terminée à la paracha de Bo. Et on est encore aujourd'hui. En train d'essayer d'expliquer au monde le dévoilement de Dieu. Mais t'inquiète pas, lorsque on va y arriver, là, maintenant, demain, eh bien, les nations ne vont plus forcément se convertir et venir s'attacher à Israël, mais elles vont demander à Israël de leur apprendre comment devenir Goy Kadosh.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des mouvements de jeunesse aujourd'hui qui s'appellent Tzivot Hashem ? C'est ça leur référence ?
Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Je ne pense pas. Mais je pense que si tu leur dis, ils ne seront pas contents. C'est ça ? Ve'amevin yavin. Quoi qu'il en soit, Leil shimurim hu l'Hashem. Ah. Là, on va te parler de la soirée de Pessah. On est déjà sorti d'Égypte, ça y est. Donc, à qui on parle là maintenant ? Est-ce qu'on est encore en train de raconter le récit ? Non. Là, on te parle à toi, ça fait 40 ans que tu es sorti d'Égypte. Et on te parle de la sortie d'Égypte, et on te parle de cette soirée du Seder, de Pessah, et on te dit « Lel Shimurim Hu, Lemi, la Hachem ». Toi, tu croyais que c'était l'El Shimurim pour toi, que c'est une nuit que tu dois garder pour toi. Non, c'est une nuit qui est Shimurim pour lui, dans laquelle chaque année, il renouvelle son alliance avec le peuple juif. Ok ? L'El Shimurim ou l'Hachem, l'Otsia, Meretz Mitzrayim, Hu, Alayla, Zeh, L'Hachem, Shimurim, Lechol, Bnei Israël, Ledorotam. Yomer Hachem, El Moshe, Ve'aaron. Zot, חוקת הפסח, הפסח סליחה, כל בן נחר לא יאכל בו. אוקיי. וכל עבד איש מתנת כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. תושב ושכיר לא יאכל בו. ובית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. כל עדת ישראל יעשו אותו. קסטיום. On ne le sait pas, ça ? Ces lois-là, on ne les connaît pas ? Ben, je ne comprends pas.
Après d'avoir lu, on connaît.
Non, mais avant d'avoir lu, tu remets le, remettons le texte, si tu veux, dans son contexte. Ils ont déjà fait le Corban Pessah. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant des lois pour l'année prochaine ? Oui, mais c'est donc maintenant tu as besoin de me le dire, le lendemain matin. Ben oui, parce que maintenant il y a une nouvelle identité qui vient d'être rattachée à nous, qui était jusqu'à maintenant Nechar. Donc maintenant, il va falloir leur expliquer à eux comment ça marche. Et c'est pour ça que c'est quoi le verset qui suit ? Vechiyagur itraguer. Vasa pesach l'Hachem. Imol lo kol zachar. Veaz ikrav la'asoto. Vayak ezrach haaretz. Vechol harel lo yochal bo. C'est barou. C'est-à-dire qu'on parle maintenant à cette nouvelle identité. Voilà, qui vient de se rajouter. On leur dit, voilà, comment vous allez pouvoir maintenant faire Pessah également. Torah Achat, oui, pardon.
Est-ce que c'est là qu'on apprend une partie des lois de conversion ?
Une partie, d'accord, exactement. Torah Achat, Yel Ezra, Velager, Agar, Betorachem. Et Asu, Kol Bnei Israël, Kacher, Tziva, Hashem, Et Moshe, Et Aaron, Ken, Asu. Agar, entre parenthèses, on apprend ici une des règles de la kashrout. Quelle est la règle de la kashrout ? La règle est que lorsque quelque chose est de manière générale besséder, alors on admet qu'elle est besséder. C'est-à-dire que si il y a dans l'animal quelque chose qui de manière générale, normalement, ça va, eh bien on ne va pas prendre comme postulat de départ que ça ne va pas et qu'il faut aller vérifier. J'explique. Il y a plein de choses qui peuvent rendre un animal taref. Taref, c'est-à-dire impropre à la consommation dans le judaïsme. Il y a des choses qui sont très courantes et d'autres beaucoup moins. Par exemple, bon, la shrita, c'est pas l'animal tout seul qui fait, mais la shrita peut être mal faite. Donc ça, il faut vérifier, évidemment. Marloquette sur halak ou pas halak, est-ce que les poumons ont été perforés ? Ça peut arriver. C'est assez courant même que ça arrive. Donc, c'est quelque chose qu'on vérifie. Mais il y a d'autres choses qui rendent l'animal taref. Par exemple, nekivat krum amoar. S'il y a un problème dans le krum du cerveau, c'est-à-dire la couche, la membrane qui entoure le cerveau. Si cette membrane est fissurée, alors l'animal est taref. Sauf que, pour vérifier ça, il faut quoi ? Il faut lui ouvrir la tête. Sinon, tu ne peux pas vérifier. Or, Bekorban Pessah, Ve'etsem Lotish Berubo. On n'a pas le droit de casser aucun os. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas aller vérifier. Là, tu vas me dire, aujourd'hui, peut-être que tous les Shochatim y vérifient. Non. Mais disons qu'on peut dire qu'ils vérifient parce que tu peux acheter de la cervelle. Et, donc, ça veut dire qu'on a ouvert. Mais bon, t'inquiète pas, ils ne vérifient pas. Mais de toute façon, Korban Pessah, t'as pas le droit. Alors, comment c'est possible ? Peut-être que ton Korban, il a une équivalent de Kruma Moar ? C'est possible. Peut-être que l'animal, elle a ça. On ne sait pas. Voilà. Parce que, de manière générale, il n'y a pas. Donc, on ne va pas aller vérifier. Ok ? Chachouv meod bezmanen. De savoir que quand il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de les inventer. C'est-à-dire, on a déjà suffisamment de problèmes avec le judaïsme, ce n'est pas la peine de créer une, autre, une nouvelle religion en plus. C'est-à-dire, ויהי בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. או, מה זה על צבאותם? On est porté par le ערב רב. C'est-à-dire que quelle va être maintenant notre légitimité internationale qu'il y a des représentants de l'Égypte avec nous. Eh oui, imaginez-vous, on doit aller parler maintenant à l'international. Qui est l'ambassadeur qu'on va envoyer ? C'est un mec de l'Égypte, la preuve, regardez, il va vous expliquer combien on mérite d'eux. Et donc, ils deviennent vraiment, des fois, quand ils veulent, ceux qui vont porter le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que des fois, quand ils ne veulent pas, ils vont aussi montrer tout ce qu'ils avaient gardé de l'Égypte en eux. Mais ça, on verra les prochaines fois. Chazak ou Baruch.
Donc on commence au chapitre
13. Exactement.